Dingri, bienvenue, bienvenue sur Monobloc.
Merci beaucoup.
Écoute, tu peux te présenter?
Je m'appelle Ayari Montassar. Je porte le nom de Dingri, c'est un nom d'héritage que j'ai préféré le donner à moi-même mieux que mon nom administratif, parce que je trouve que ça représente plus ma personnalité. Et comme je n'ai pas vraiment choisi mon prénom, j'ai décidé de me donner ce prénom.
Et ça veut dire quelque chose, Dingri ?
Dingri, en fait, ça signifie deux choses. En berbère, en fait, c'est le bouclier du guerrier. Et en même temps, le Dingri, chez nous, en tunisien, en fait, c'est pendant la guerre, c'est le bleu du travail des communistes chinois. Et c'est le tunis bleu, en fait. Et nous, les Tunisiens, on appelait ça Dingri. On le portait ça avec les t-shirts marins, comme ça. Et du coup, on faisait Dingri. Et c'était en fait l'uniforme des Tunisiens, en fait, travailleurs. C'est pour cela, dans tout métier, tu vois toujours les hommes, ils portaient ce bleu de travail-là. Et c'est symbolique pour moi, en fait. C'est très symbolique.
Et donc, nous, on t'a rencontré ici à Dakar, qui est ta terre d'adoption. On t'a rencontré donc, à un apéro cassette.
Yes.
Donc, tu étais venu dans un bar dans le quartier de N'Gor, au bord de la mer, et tu t'es venu avec ta collection, enfin une petite partie de ta collection de cassettes.
Partie.
Et donc, tu mixes, tu fais le DJ avec des cassettes audio.
Yes. Aujourd'hui, maintenant, ça fait un an où j'ai officialisé en fait ce projet. À l'époque, j'étais DJ Dingri. Et après, quand j'ai compris vraiment ma mission au Sénégal, comment je me suis trouvé et tout, j'ai interprété le nom de Tangal. Et Tangal Owolof, ça veut dire bonbon, ça veut dire sucré, ça veut dire doux, ça veut dire chaud. Et en même temps, Tangal dans la musique sénégalaise, dans le mbalakh, c'est quand on dit Tangal, ça veut dire tape fort sur le tam-tam. C'est tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam. C'est ça le Tangal, quoi, tu vois. Et avant, quand je mixais, et il y avait les Sénégalais autour de moi, ils me disent « Yo, boy, Tangal, quoi, tu vois, genre, toi, tu nous chauffes. » Et je capte ça une fois, deux fois, trois fois. Et surtout, en fait, j'ai essayé vraiment d'impressionner au Sénégal. Du coup, je vais m'adresser plus aux Sénégalais. Le bon hip-hop, l'électro, je vais leur mettre l'électro africain, des trucs comme ça et tout. Et j'entendais toujours ça. « Yo, toi, tu tangales la soirée, quoi, tu vois. » Et moi, j'étais là, je dis « Tangal, tangal, tangal. » Je parlais un peu, je dis « Explique-moi, tangal, ça veut dire quoi ?» Il m'a donné les explications et tout. Je dis « Ok, ça, c'est nice. » Et boum, changer d'AKA direct, quoi, tu vois, genre « Tangal Beats ».
Mais là, tu mixais déjà avec des cassettes à l'époque ou pas ?
À l'époque, non, pas encore.
Okay.
Que à la maison.
Okay.
Et voilà. Et j'ai commencé à faire les sous-régions. Je pars, je fais des campings, des Airbnb, des trucs comme ça. Je cherche des cassettes. Et j'ai commencé plus à m'intéresser à la musique sénégalaise. Elle commence à me parler plus parce qu'au début, elle était très étrangère pour moi. Mais après, ça m'a pris genre 3-4 années, quoi, tu vois, où j'ai commencé vraiment à trop kiffer le rétro Galsen. Léo Marpen, Super Diamono, les Tion Sec, les Orchestra Baobab, les Pap Ndiaye, les compagnies, le Mbalakh, écouter vraiment les radios. Et au début, quand j'écoutais le Mbalakh, je me disais, oh, putain, c'est dégueulasse, genre trop de percus avec de la basse sur de la guitare, sur du tama, sur des trucs comme ça.
Le Mbalakh, c'est le rythme le plus populaire au Sénégal.
Exactement, le Mbalakh. Yeah.
Comment tu le décrirais
En fait, le Mbalakh, c'est trop festif, en fait. À la base, le Mbalakh, c'est un rythme. Parce qu'à la base, ils disent aujourd'hui, c'est devenu la musique, le Mbalakh. La musique sénégalaise, ils disent le Mbalakh parce qu'en fait, il y a toujours le rythme de rantantan, rantantan, rantantan. Mais à la base, l'instrument, c'est le sabar. Et le sabar, vraiment, c'est un instrument qui est hyper mystique. Et les Sénégalais, dès que tu tapes le sabar, ils se mettent en transe. j'ai commencé, voilà. Après, les cassettes, les marchés, les poubelles, les voisins, les voisines. Dès que je monte avec un taximan, je trouve qu'il a un cassette. Je lui dis, je te donne 500 francs, tu me donnes ça. J'ai acheté des cassettes à 10 000, j'ai acheté la cassette à 100 francs.
Il y a un mythe qui dit que tu as racheté l'entièreté des cassettes du continent africain, c'est vrai ou pas?
C'est vrai. Ok. C'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une collection, je pense que...
T'en as combien?
Aujourd'hui, j'ai une collection plus que 6000 cassettes. Et je vise vraiment, le but, c'est d'ouvrir un musée à cassettes.
Ah, à Dakar?
À Dakar.
Mais alors, parce que bon, toi, donc, tu es d'une jeune génération, tu es de la génération qui a quand même grandi comme nous avec Internet, avec le MP3, mm-hmm. avec Spotify, avec toutes les plateformes, la mm-hmm. musique accessible de partout. Alors pourquoi cette passion pour ce vieil objet qu'est la cassette en fait, ça représente quoi pour toi une cassette?
En fait, c'est pas juste la cassette, c'est la musique en général. La musique. C'est comme une femme, en fait. Nous, par exemple, quand tu es un homme, tu n'aimes pas une femme facile comme un homme, elle n'aime pas un homme facile. Aujourd'hui, si tu es là, tu peux voir la main que tu veux en claquant les doigts. Tu t'ennuies, en fait. Comme j'aime pas prendre l'avion, pour moi, c'est une grosse perte de temps. Moi, si j'ai un voyage à Bamako, je prends la route. J'ai trois jours de voyage et c'est là où je vais rencontrer tout le monde et je vais découvrir chaque fois, quoi, tu vois, autre chose. Et en fait... L'époque, l'industrie musicale, les années 60 et les années 70, on écoutait un son à la radio et on tenait la queue comme des malades sur les vinyl stores et les cassettes stores et les CD stores. Sur chaque sortie de n'importe quel album, musique africaine, on prend à l'époque les James Brown, les Beatles, les CDC, le rock, le metal. En France, pareil. Mais quand tu veux vraiment quelque chose d'unique et de très spécial, ça doit se mériter, tous ces voyages-là. T'es là, il y a des moments, t'es en chemise blanche et en pantalon blanc, et boum, tu passes à côté des poubelles, et j'ai quelque chose en moi qui me dit, un petit bruit de fond à l'intérieur de moi, il me dit, plonge-toi à l'intérieur, tu vas trouver des cassettes. Et je faisais honte à ma meuf pas mal de fois, on est là, elle me dit, gars, t'es le mec presque le plus connu maintenant à Dakar parmi les DJ, ils te voient dans la poubelle, les gens, ils viennent me dire ça. Je dis, mais je m'en fous en fait, je suis en train de chercher mes cassettes. J'ai dit, est-ce que tu sais, dans 10 ans, ce truc-là, ça va être jeté, ça va être brûlé.
Oui, donc ça, c'est aussi pour préserver. C'est pour préserver un héritage qui disparaît. Parce qu'on nous racontait aussi que les gens ici, ils jettent leur vinyle dans la rue. Tout.
Bah oui, bah oui, ils jettent leur vinyle. Bah, déjà, partout dans le monde, déjà. Souvent, tu vois des photos sur Internet où ça fait mal au cœur. Tu as une petite ruelle, tu as presque genre 5000 vinyles jetés. Et tu vas voir les gens à genoux, il y a des gens à genoux qui sont là en train de voir des disques, quoi, tu vois. Ça veut dire, en fait, c'est pour moi, aujourd'hui, les cassettes, c'est un métastase artistique. Et le métastase, c'est vraiment, c'est le dernier étape, quoi, tu vois, genre au cancer, quoi, tu vois. C'est avant la mort, quoi, tu vois. Et moi, même moi, en récoltant des cassettes, je suis tombé malade. J'ai attrapé même hépatite A.
En cherchant dans les poubelles, les cassettes. Dans les poubelles,
bien sûr.
T'as risqué ta vie pour des cassettes.
J'ai risqué ma vie et j'arrive en Tunisie. Après tous ces temps-là, en fait, j'ai digué pendant un mois au Niger, partout, quoi, tu vois, pour ramener 50 cassettes. Tu sais, un mois au Niger, tu trouves 50 cassettes à 50 degrés, quoi. Tu vois, je suis allé jusqu'à Agadez, genre à 2000 km du capital. Après, j'ai dit, bon, c'est le moment, je suis au Niger, ok, je décide de rentrer en Tunisie après 6 ans. J'arrive, 2 semaines après, j'attrape hépatite. En fait, c'est quelque chose en moi qui se dit, comme aujourd'hui, je me suis réveillé le matin, je suis sorti, j'avais de la thune, que j'avais vraiment besoin de m'investir dans autre chose. Je suis allé, j'ai claqué 500 euros en m'achetant des tourne-disques, même si j'en ai genre beaucoup, mais je sais qu'il faut préserver ça. C'est très important, en fait.
Oui, t'es arrivé avec un tourne-disque et tu nous avais dit que t'en avais combien d'exemplaires déjà de celui-ci à la maison?
Celui-là, le Sony noir, j'en ai 20 déjà.
D'accord. Et qu'est-ce que tu vas en faire de tous
ces
tourne-disques?
En fait, le but, là, je compte vraiment ouvrir mon petit shop ici dans le quartier. C'est pour exposer déjà pour les gens qui viennent avoir des séances d'écoute gratuites de musique. Ils viennent, ils se posent en buvant un thé, juste ils vont mettre un casque. Il y aura les Walkman, il y aura les tourne-disques, il y aura les tourne-CD et tout. Et même des lecteurs VHS aussi, avec pas mal de films rétro. Et le but, après, c'est d'en vendre à des gens vraiment qui en ont besoin, quoi, tu vois. C'est par ordonnance, en fait. Tu dois ramener une ordonnance d'un musicologue. Tu me dis, en fait, voilà, mon musicologue, il m'a dit, tu dois écouter des vinyles. tu vas acheter quoi, tu vois, genre un tourne-disque à un prix symbolique.
Et tu dis que ce shop, il sera aussi le siège de ton label que tu vas créer.
Exactement, Tangle Records. Yes, ça va être le collectif en fait de tous les vendeurs de vinyles et de cassettes qui sont vraiment parpillés un petit peu partout à Dakar. Le but, que je prends la moitié de leurs marchandises ou tout ce qu'ils veulent vraiment exposer ou ils n'ont pas, parce que souvent ils sont dans des petits trucs, dans des petits shops, à part deux amis qui ont vraiment des locales, sinon le reste ils sont vraiment dans des conditions trop un peu merdiques. Le but, qu'ils exposent chez moi et ils vendent, et la vente va pour eux, moi je ne prends même pas de pourcentage là-dessus.
Et est-ce que tu comptes aussi faire des rééditions avec ce label ?
Des rééditions, ça c'est en cours, ça c'est un grand projet, parce que j'ai des cassettes où je suis vraiment le seul au monde qui peut les avoir, même Awesome Taste from Africa ou des autres DJ en fait, parmi leur répertoire que je suis en train de follow à fond, ils en ont pas. Du coup, j'espère un jour déjà qu'on peut coopérer ensemble, quoi, tu vois, quand déjà bientôt, c'est un projet qui est en cours, mais là pour l'instant, ouais, rééditer déjà des cassettes.
Et tout à l'heure, tu nous disais que ça avait encore jamais été joué en Europe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et pourquoi ?
En fait, c'est très facile. Tu es né en Tunisie. Déjà, tu es dans une société déjà où elle est déracinée de ses origines africaines. Après, voilà, tu as une ambassade comme toutes les ambassades de tous les pays du monde, quoi, tu vois. Tu es artiste, tu poses ton visa, on te le refuse parce qu'on veut que l'artiste il soit riche. On veut des preuves que tu ne vas pas fuguer et rester en France là-bas, immigrer. Alors on va te demander déjà que tu dois avoir 25 000 euros dans ton compte bancaire. On doit demander tes trois derniers fiches de paie, assurance, hôtel minimum à la nuit à 60 à 70 euros. Et si tu as de la famille en France déjà, si c'est une famille d'origine immigrante, non, on peut pas te prendre le visa. Et si des jeunes d'artistes ou des jeunes labels qui veulent t'inviter, il y a toujours le problème parce que c'est le fisc, les impôts, les trucs comme ça et tout. Ils doivent savoir combien je vais être payé, à qui je vais être payé, qu'à la base, nous, on est artistes. Putain, on peut partager un canapé ensemble, quoi, tu vois, même dormir par terre après une bonne soirée. Franchement, tu t'en fous ou tu vas dormir, quoi, tu vois. Il y avait toujours ça, il y avait toujours cette image-là. Même en tant que cinéaste, j'étais invité à plus que 50 festivals en France. Mais j'y ne vais pas parce que je ne veux pas me trouver dans cette situation-là où ils vont me dire « Non, monsieur, on a refusé votre visa parce que, voilà, tu nous fais peur, en fait. Tu es comédien, ok, on t'est connu peut-être chez nous, mais nous, on ne veut pas de toi. » Et, bah, pardon, moi, je ne veux pas de vous aussi. Moi, ma région natale, on n'a pas ni cinéma. On n'a pas ni centre de loisirs. On n'a rien. Il n'y a que de l'alcool et la drogue. Et les contrefaçons. En fait, ça veut dire, en fait, ces états-là, en fait, ils nous mettent, parce que même si je ne fais pas partie, mais je fais partie, ils te mettent dans des conditions, en fait, où tu ne vaux rien. Ouais, et il faut qu'on se bat plus. Ce genre de rencontre, déjà, moi, je suis vraiment trop excité, parce que, waouh, je pose mes platines, vous venez, hey, bonjour les gars, ça va, nous, c'est une petite radio web, machin, et tout, on veut faire ça. Je dis, allez-y les gars, branchez et tout, mais moi, j'étais là, je dis, waouh.
Alors, moi, je propose qu'on écoute un peu le set qu'on a enregistré. Comme yes. Ça, tu peux nous parler un peu de la musique que tu passais ce soir-là.
Yeah, yeah, yeah.
Ouais, ok.
Yes.
Tac.
Paul Manoboy, Radio Monobloc.